le magazine des Nations Unies.
Bonjour et tout de suite les principaux titres de cette édition du magazine des Nations Unies. La Commission électorale nationale indépendante, CENI et la MONUSCO déterminées à s'engager pour des élections apaisées et qui débouchent sur des résultats acceptés par tous. C'est dans cette perspective que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies RDC, Bintou Keïta, a conféré mercredi à Kinshasa avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Vous suivrez dans cette édition la chef de la MONUSCO à ce propos. Nous irons aussi à Bounia, en Ituri. Plus de 200 enfants de cette contrée sortis des groupes armés entre janvier et août 2022. Une action obtenue grâce à l'implication de la MONUSCO. Et cette information a été livrée au cours d'un atelier de validation du plan de démobilisation, désarmement et réinsertion pour les enfants. Enfin, le monde a célébré la 15e édition de la Journée internationale de la démocratie instituée le 15 septembre. En République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est joint à cet événement à Kinshasa. Pour son directeur, Abdoulaye Aziz Tchoui, la démocratie est inséparable des droits fondamentaux et des libertés des individus. Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que le directeur du BCNUDH a accordé à Radio Okapi en marge de cette célébration.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dimanche 18 septembre 2022. Nous ouvrons ce magazine par le processus électoral de 2023. Bintou Keïta plaide pour une synergie des communications publiques entre la CENI et les systèmes des Nations Unies en République démocratique du Congo, un vœu émis lors d'un échange que la chef de la MONUSCO a eu mercredi 14 septembre 2022 avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Un échange auquel a également pris part Dominique Sam, représentant pays du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Écoutez Bintou Keïta au micro de Jeff Ngoy.
Et nous nous sommes aussi mis d'accord sur le fait que nous devrions avoir des plateformes régulières d'échange entre nous, de manière à pouvoir travailler en synergie en termes de communication publique, mais aussi de voir comment les appuis, que ce soit au plan logistique et ou autre, sont déterminés au fil des échanges que nous aurons donc de façon régulière. Ça a été un échange riche dans les domaines de l'analyse de la situation qui prévaut actuellement, mais aussi d'une volonté déterminée de faire en sorte que les élections se passent de façon apaisée et avec des résultats qui seront acceptés par tous. Et pour cela, donc, une technicité, une expertise mise à la disposition de ce processus électoral pour que tout se passe bien en 2023.
Quittons Kinshasa, direction Bounia en Ituri. Plus de 200 enfants soldats sortis des différents groupes armés depuis le début de cette année grâce au soutien de la MONUSCO. Information publiée mardi 13 septembre par la section protection de l'enfant de la mission onusienne. C'était au cours d'un atelier de validation du plan opérationnel des démobilisations, désarmement et réinsertion pour enfants. Les points de cet atelier avec Ezekiel Mouzalia.
Cette ONG de protection de l'enfant participe à cet atelier pour réfléchir sur les voies et moyens de sortie des enfants qui sont encore dans les groupes armés. Et c'est à travers la validation du plan de DDR enfants que cette démarche pourrait aboutir, indiquent les organisateurs. Ce plan prévoit entre autres la mise en place des clubs d'écoute pour enfants ou encore des familles transitoires qui peuvent servir des lieux d'accueil pour ces enfants. Le responsable de la section protection de l'enfant à la MONUSCO à Bounia indique qu'en l'espace d'une année, plus de 200 enfants sont déjà sortis des groupes armés grâce à l'appui de la mission onusienne. Jean Mouzama invite les leaders des groupes armés CODECO, FPIC, FRPI qui sont déjà engagés dans le processus de paix à libérer les restes des enfants qu'ils détiennent afin qu'ils réintègrent la vie civile.
Les enfants ne donnent ni de titre ni de grade aux dirigeants des groupes armés. Les enfants doivent être déjà libérés. C'est une preuve de bonne foi. Aux autorités, dans les négociations qu'elles ont avec les membres des groupes armés de ne pas oublier l'aspect des enfants.
Pour la conseillère du gouverneur des provinces en charge des questions genre, le gouvernement attend la matérialisation de ses plans afin de permettre à tous ses enfants de reprendre une vie normale. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Retour dans la capitale. Planifier une action, renforcer la démocratie, c'est le thème cette année de la Journée internationale de la démocratie, célébrée le 15 septembre. En marge de cet événement, à l'horizon 2023, les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme estiment que ce n'est pas démocratique de prendre sa femme ou sa fille et faire d'elle sa suppléante au Parlement, ni d'organiser une élection qui ne tient pas compte de l'intérêt général. Pour Abdoulaye Aziz Thioy, la démocratie est inséparable des droits et des libertés fondamentaux. Les directeurs du BCNUDH au micro de Jeff Ngoy.
C'est contre les règles de jeu démocratique d'être titulaire et de prendre comme suppléant votre fille, votre femme, sous prétexte. Finalement, on se retrouve encore une fois dans autre chose que la démocratie. Parce que ça, c'est une représentation, c'est de quelques familles dans un système. C'est un dévoiement du suffrage universel. C'est dévoyer la volonté du souverain du peuple que véritablement de venir présenter des situations d'agir de la sorte. Je pense que c'est un appel qu'il faut lancer à tout le monde. C'est de la volonté des hommes que dépend la qualité d'un système démocratique. Les meilleures institutions qu'on veut mettre dans un système démocratique n'auront de sens et n'auront d'utilité pour le peuple qu'à travers les hommes qui les animent et les objectifs, la représentation que ce qui anime ces institutions se font de l'intérêt général.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est également impliqué mercredi à Kinshasa dans l'organisation d'une journée d'échange et de sensibilisation aux articles contenus dans le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. C'était à l'initiative de l'ONG Femmes solidaires pour la paix et le développement FSPD en sigle. Des responsables des ONG de protection des droits des femmes des milieux ruraux et périurbains de la ville-province ont pris part à cette activité avec l'accompagnement de la Fondation Alidor Massamba pour marquer la clôture de la Journée internationale de la femme africaine. Jean-Désiré Kanyama, reportage.
La FSDP salue tout d'abord les efforts du gouvernement de la RDC pour réduire les inégalités sociales basées sur le genre. Maître Marie-Claire Abamungu en est le chargé de programme.
La RDC a ratifié sans réserve le protocole de Maputo. Il est important de signaler que plusieurs États ont mis en place des instruments juridiques pour apporter une protection à la femme, à savoir parmi ces instruments, le protocole de Maputo.
L'officier des droits de l'homme, Corinne Gueguang Kemabia, a au nom du directeur du BCN UDH relever les défis liés à la promotion des droits de la femme.
À savoir la violence, l'insécurité alimentaire, les changements climatiques, l'éducation et l'emploi, les discriminations historiques liées aux considérations socio-culturelles et les lois nationales inadaptées, conduisant notamment à une faible représentation des femmes dans les gouvernements et les parlements en Afrique. La célébration de la Journée internationale de la femme africaine nous rappelle notre responsabilité commune et partagée de combattre la discrimination envers les femmes. Ici est de reconnaître cependant qu'il reste beaucoup à faire concernant l'égalité femmes-hommes. Le BCNUDH exhorte donc le gouvernement de la RDC à œuvrer en étroite collaboration avec les organisations de la société civile afin de mettre en place un système efficace de protection tant au niveau national que provincial.
Dans ce partenariat, Alidor Massamba, représentant de la fondation qui porte son nom, encourage plutôt les femmes à l'entrepreneuriat.
Nous avons ce qu'on appelle un projet au sein de la fondation Alidor Massamba qui s'appelle Seconde Chance. Ce projet signifie promouvoir le génie féminin à travers trois axes. L'autonomisation de la femme au travers des projets donc agro-pastoral, la formation des femmes, l'alphabétisation des jeunes dames et l'entrepreneuriat au travers des microcrédits.
À l'issue de ces assises, les participants ont recommandé au gouvernement de mettre en application les protocoles de Maputo afin de réduire les inégalités.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, la 15e de l'histoire de l'ONU, les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoul Aziz Thioy, a dressé un bilan mitigé de la démocratie en RDC, caractérisé certes par quelques avancées, comme il a reconnu lui-même. Il a également parlé des actions que mène son institution pour la promotion de la démocratie au Congo démocratique. Abdoul Aziz Thioy s'entretient avec Jeff Ngoy.
Bonjour Abdulaziz Choi.
Bonjour.
À l'occasion de la célébration de la 15e année de la déclaration universelle proclamant la démocratie dans le monde par les Nations Unies, j'ai affaire au directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous êtes le défenseur des droits et libertés fondamentaux. Que veut dire démocratie?
Comme vous l'avez dit, le 15 septembre 1997, la journée du 15 septembre est consacrée comme journée internationale de la démocratie. C'est une occasion, je pense, très très importante de s'interroger sur la démocratie et de s'arrêter un moment pour réfléchir et regarder le fonctionnement de nos sociétés qui sont prétendument démocratiques. Donc, parler de la démocratie, il revient à parler de ce que la célèbre phrase d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dire le gouvernement par le peuple souverain qui décide de sa vision, de son système de gouvernement, qui décide de sa vie économique et qui décide également de sa sécurité ainsi que de la gestion de sa vie quotidienne. Donc, vous pouvez comprendre que la démocratie, on la distingue de la monarchie, évidemment, qui est un système basé sur la volonté d'un individu et un système de transmission du pouvoir sur une lignée qui est beaucoup plus dynastique et sans égalité des chances. Donc, la démocratie, c'est la primauté du droit sur la volonté des individus ou d'un individu. C'est également le respect des droits de l'homme. Et nous, en tant que bureau des droits de l'homme, c'est l'élément pour nous le plus important. C'est l'interdépendance qui existe entre la démocratie et les droits de l'homme. Le respect de la liberté de la presse, la possibilité pour le peuple de se choisir ses représentants ou d'agir directement. Mais dans la majorité des systèmes que nous connaissons, des systèmes politiques qui existent dans le monde en général, il s'agit de démocratie représentative. C'est-à-dire le peuple qui ne peut pas décider compte tenu du nombre, mais qui décide de se choisir des représentants pour décider de la conduite au quotidien de la vie publique et de tout ce qui relève de son bien-être, de sa sécurité, et ainsi que de ses droits et de ses devoirs.
À ce jour, peut-on dire qu'il y a eu des avancées positives, des avancées considérables que le BCNUDH peut déceler concernant notre système démocratique?
Des avancées, oui. Je pense que si nous en sommes aujourd'hui à discuter ouvertement du respect ou non des droits et libertés, c'est parce qu'évidemment, il y a une liberté d'expression. Donc c'est ça aussi une caractéristique de la démocratie, la liberté de la presse. Depuis 1998, je pense, après les élections qui ont amené l'alternance à la tête de ce pays, il y a eu une ouverture de l'espace politique. Nous avons vu la possibilité de la société civile pour les partis politiques de définitivement pouvoir manifester librement. Il y a eu par la suite des velléités de restriction qui ont refait surface et qui ont fait à un moment donné craindre effectivement d'un retour en arrière. Les craintes sont toujours là. Mais évidemment, on n'est pas à la situation que nous avons connue il y a quelques années, notamment entre 2016 et 2017, où de façon très claire, il y a eu une répression sanglante des manifestations qui étaient organisées sur la voie publique. Pour l'heure, sans trop décerner un satisfecit, on peut dire qu'il y a un bilan plus ou moins mitigé des avancées qui méritent d'être consolidées et pour d'autres sur des aspects sur lesquels il faut nécessairement faire des progrès. Et en cela, il y a des attentes assez fortes.
Planifier une action et renforcer la démocratie, c'est le thème de cette 15e année. Quelles sont les actions que le BCNUDH planifie concernant la promotion de la démocratie?
Nous travaillons beaucoup. Nous sommes dans un rôle comme bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, comme vous le savez, est l'entité des Nations Unies en charge de tout ce qui est coopération technique pour accompagner les États à être plus ou moins en conformité avec leurs engagements, pour ratifier une convention. Nous devons vous aider techniquement à mettre en œuvre les dispositions de la convention. Donc, pas seulement les États. Il nous faut travailler avec le Parlement. Comme vous le savez, nous travaillons beaucoup avec les autorités qui sont les détenteurs d'obligations. C'est-à-dire, quand l'État ratifie une convention et décide d'accorder les bénéfices des droits reconnus dans la convention à ses citoyens, c'est l'État qui a l'obligation de réaliser cela. Donc, nous sommes du côté de la redevabilité, c'est-à-dire aider l'État à véritablement être à niveau dans la satisfaction de ses obligations et leur mise en œuvre. Nous soutenons également le côté des bénéficiaires, ceux qui détiennent des droits, citoyens, pas les citoyens individuellement, mais à travers les structures qui les représentent. C'est la société civile, dont nous renforcer les capacités de manière à les accompagner, à pouvoir eux-mêmes développer un plaidoyer, un dialogue qui leur permette de s'engager avec les autorités, ce qu'on appelle augmenter les capacités de réclamation.
La 15e année de la proclamation universelle de la démocratie par les Nations Unies coïncide avec la crise de la COVID-19 qui a presque entraîné des défis à l'échelle mondiale, des défis majeurs sur le plan politique, sur le plan social et juridique. Comment peut-on renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises?
Je pense que la COVID-19 nous a pris deux bonnes années. On ne s'en rend pas compte que beaucoup de choses se sont passées. La COVID-19 a favorisé quelque peu une crise du multilatéralisme. Certains États se sont refermés sur eux-mêmes. Les disparités et les inégalités sociales et économiques se sont accentuées, ce qui est aussi un élément non négligeable. Et la COVID-19 aussi a été une occasion pour certains pays, certains régimes, de restreindre davantage les droits et libertés. On l'a vu, et d'ailleurs la haute commissaire a beaucoup insisté là-dessus pour rappeler à certains États la nécessité de s'abstenir dans le contexte, sous prétexte de lutter contre la pandémie, de restreindre les droits et libertés. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays où les gens étaient confinés, ne pouvaient pas sortir. Les manifestations étaient interdites, certaines activités, beaucoup d'atteintes à la vie privée sous prétexte de confinement. C'est très très compliqué et également une explosion des violences domestiques. Toutes les leçons apprises de la COVID-19, je pense, doivent servir pour faire différemment. Et donc, et ça nous ramène encore une fois sur l'interdépendance. Un système démocratique est un système aussi qui crée les conditions pour que ses citoyens puissent jouir de tous leurs droits, civils et politiques, mais droits économiques, sociaux et culturels. Et en cela, pour le faire, il faut créer un environnement qui permette une expression libre et démocratique.
Abdulaziz Choy, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nos nouvelles en plus bref, volet sécuritaire et humanitaire d'abord avec ce projet du Bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchad, publié en début de semaine à Bounia en Ituri, à Mambasa en proie à des attaques de rebelles ADF. 83 morts ont été enregistrés autant que 19 000 nouveaux déplacés. Ce rapport qui couvre la période du 13 au 7 septembre 2022 indique aussi que 300 000 personnes ont regagné leur milieu d'origine au cours de ces 5 derniers mois dans les territoires de Mahagui. Au Kasaï central et en marge de la rentrée scolaire 2022-2023, l'UNICEF s'est lancé à Kananga dans la campagne nationale des scolarisations des enfants. L'école est un lieu de préparation de l'avenir de l'enfant et des divertissements, a affirmé à cette occasion le chef de bureau de cette agence pour les grands Kasaï, Abdallah Abdel Bassoula. Déplorant les méfaits du phénomène comme il en s'impose sur le système éducatif dans cet espace, les chefs de bureau UNICEF Grand Kasaï a préconisé des études d'auto-évaluation en vue de rendre compte de ces méfaits. Enfin, revenons ici à Kinshasa avec la MONUSCO. Le leadership de la mission des représentants des agences du système des Nations Unies RDC se sont réunis en retraite dans la capitale du 7 au 8 septembre. Des experts du bureau du secrétaire général de l'ONU à New York et ceux du département du maintien de la paix ont également pris part à cette réunion. L'objectif de la retraite était de faire une introspection et un état des lieux du travail accompli dans le cadre des One UN, déceler les faiblesses et arrêter de nouvelles stratégies afin d'améliorer leurs interventions pour les jours à venir.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies vous propose comme invité Madame Ruth Sabouni, chef des bureaux genre, famille et enfants, MONUSCO Béni, au Nord Kivu. L'entretien qu'elle a accordé cette semaine à Radio Okapi porte sur la campagne lancée par le groupe des Amis du Genre sur la masculinité positive. Ruth Sabouni répond aux questions de Marc Marofimbo.
Madame Ruth Sabouni, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette campagne de sensibilisation dénommée la masculinité positive et pourquoi seulement à ce moment précis?
La masculinité positive comme campagne a été initiée avec un groupe de amis du genre, donc les hommes qui travaillent avec les femmes, juste pour éveiller la conscience des hommes. Et cet éveil de conscience, c'est juste pour voir que l'union fait la force. Si on travaille main dans la main, c'est-à-dire et les hommes et les femmes, on va aboutir, on va arriver à des solutions durables. Parce que, comme vous le savez, lorsque nous parlons de la masculinité positive, c'est juste le comportement positif de l'homme, sans tenir compte des normes sociales qui a défini les attributions des uns et des autres. C'est-à-dire, ça, ce sont les rôles des hommes et ça, ce sont les rôles des femmes. Et nous prenons juste le comportement positif. C'est-à-dire, et l'homme et la femme mettent les idées ensemble. S'ils ont à planifier, ils planifient ensemble. Et ça va donner ce que nous appelons le pouvoir avec. Donc, une décision participative. Et là, il n'y aura pas de blessures. Parce qu'on a constaté que dans beaucoup de foyers ou bien dans la communauté, que ce soit dans des services, ce qui crée beaucoup de discordes, c'est le manque de dialogue. Et c'est ce comportement-là de la masculinité positive qui va nous permettre à travailler main dans la main et à unir nos forces jusqu'à avoir les résultats que nous cherchons.
Et comment vous évaluez cette approche de la masculinité positive ici en ville de Béni?
Nous l'évaluons à un faible pourcentage. Parce qu'on a compris que les hommes qui accompagnent jusque-là les femmes, leur pourcentage est trop insignifiant. Avec cette petite expérience, on a compris que les hommes qui ont compris que réellement s'ils travaillent main dans la main, leur vie a changé et il y a certaines évolutions dans tout ce qui les aménage comme activité. Et actuellement, ce qui nous a poussé encore, c'est les atrocités que sont en train de subir les femmes. Pour ce mois, juste ce mois passé d'août et ce début ici septembre, nous venons de perdre 3 femmes suite aux violences sexuelles. Donc vous voyez, ça nous permet à renforcer encore la collaboration entre l'homme et la femme.
Mais certains observateurs pensent qu'il est important que cette notion de la masculinité positive soit inculquée aux enfants dès le bas âge, soit à l'école primaire, même à l'école secondaire. Êtes-vous d'avis de cette préoccupation?
Oui, je suis d'avis parce que c'est une question que nous discutons toujours, même dans les différents groupes thématiques comme le notre groupe de travail, genre violence basée sur le genre, donc ce que nous appelons GTG. Dans ce groupe de travail, on discute toujours par rapport à ce que nous appelons le genre au niveau des écoles, parce qu'on se disait que si les enfants apprennent les genres dès la maternelle et que ça devient aussi une faculté à l'université, les gens vont comprendre parce que ce qui est ancré dans nous, c'est la culture. Et c'est dans la culture où on a eu à édicter les normes sociales et en attribuant les rôles des hommes et les rôles des femmes. Maintenant, cette culture semble être aussi pratiquée au niveau des écoles, malheureusement, par les exemples que les enseignants donnent comme cours, comme leçon au niveau de l'école. Les enfants grandissent tout en sachant que ce sont les mamans qui font les marchés et que ce sont les papas qui font les bureaux. Mais si, dès le bas âge, on apprenait aux enfants que non, et papa peut faire les marchés et maman peut faire les bureaux, ça va vraiment édifier et les enfants grandiront tout en sachant que même si je suis une fille, moi aussi je peux avoir mon bureau et travailler comme il faut les papas dans les bureaux. Nous sommes très contents parce que c'est un programme qui est déjà intégré avec le groupe de travail éducation, mais aussi au niveau des différents ministères. On a commencé quand même à intégrer la notion du genre dans certains programmes, mais aussi à créer une faculté genre au niveau de l'université.
Madame Arrête Sabouré, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
L'analyse de la problématique de la situation humanitaire dans les zones affectées par des conflits armés, l'évaluation des besoins humanitaires, l'élaboration des stratégies ainsi que les réponses humanitaires adéquates à y apporter sont, entre autres, les sujets essentiels qui ont réuni cette semaine à Goma au Nord Kivu les acteurs humanitaires étatiques, nationaux, internationaux ainsi que les agences du système des Nations Unies œuvrant dans cette province. Selon le chef du sous-bureau de l'Office des coordinations des affaires humanitaires, OCHA, La présence des populations à cette rencontre a montré l'importance que les acteurs humanitaires accordent à cette question. Explication de Merci Magnala au micro de Gabriel Wamenya.
L'objectif, c'est vraiment pour discuter avec tous les partenaires qui travaillent dans les domaines humanitaires. Les derniers chiffres, on est, juste pour expliquer, au niveau des provinces, il y a 1,9 million de personnes qui sont déplacées depuis les derniers 20 mois. Et aussi, il y a quelques millions de personnes qui sont retournées. Donc, à ce moment, si on met tout ensemble, ça vous dit que c'est presque 3 millions de personnes déplacées dans les provinces. Il y a les besoins de vivre, il y a les besoins d'appui de santé, il y a les besoins d'eau. Mais personne qui retourne, il y a les questions qui ont besoin vraiment de résilience, de développement. Comment on va appuyer pour faire les reconstructions, parce qu'il y a peut-être les maisons qui étaient détruites, il y a les santé qui étaient détruites, les écoles, donc il y a plus de besoins pour vraiment évaluer les besoins et aussi pour décider comment on va répondre à la prochaine année.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Que fait la MONUSCO hormis son apport militaire dans le cadre de la protection civile? Question posée à la représentante spéciale Bintou Keïta lors des échanges avec des étudiants de Kinshasa. Suivons sa réponse.
Mais maintenant, ce que je comprends aussi, c'est que la MONUSCO n'est vue que sous la forme de ceux qui sont avec les armes, les uniformes, et tout le reste n'existe pas. Or, la mission MONUSCO qui est mandatée par le Conseil de sécurité a plusieurs outils à sa disposition pour travailler et accompagner le gouvernement congolais, la société civile congolaise et les partenariats qui sont établis avec les donateurs, avec les agences fonds et programmes, avec les humanitaires, de manière à pouvoir améliorer le quotidien, le vécu des personnes qui sont notamment à l'est du pays. Mais en tant que MONUSCO, nous nous focalisons sur les provinces où il y a encore les conflits, les groupes armés locaux, les groupes armés étrangers, et il y a tout un travail qui se fait pour réduire la force des groupes armés locaux, pas seulement à travers l'utilisation de la partie militaire de la mission, mais aussi de la partie qu'on appelle les affaires civiles, qui engage les communautés pour que les communautés arrivent à travailler, à dialoguer ensemble pour réduire les violences intracommunautaires et les violences intercommunautaires. Ça, c'est un travail que fait la MONUSCO, mais qui n'est pas vu ou qui n'est même pas entendu, n'est même pas connu. Il y a un autre travail que nous faisons, la lutte contre l'impunité. Nous avons toute une section qui appuie le ministère de la Justice, pas seulement la justice civile, mais aussi la justice militaire. Et notamment, depuis des années, là où il y a des progrès notables, c'est dans la justice militaire.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Trois dates et trois rendez-vous à noter dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 20 septembre, c'est la Journée internationale du sport universitaire. Le 21 septembre, Journée internationale de la paix. Et le 24 septembre, Journée mondiale sans voiture. Et c'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site radiocapi.net, Radiocapi en un mot. Merci de votre attention et merci également à Charlie Luyer qui en a assuré la coordination technique. Moi, c'est Julie Ngala et c'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missenga Kalala. Restez toujours à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes et toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous le dimanche prochain.